Mais on retrouve son nom, Dominique Vidal, dans un papier qui fait la couverture du diplôme de ce mois de novembre sur les prisons israéliennes. Une enquête assez étonnante.
Oui, c'est surtout une enquête sur une prison secrète. Prison dont on n'a pas le droit de parler, dont il a été question dans la presse israélienne, mais d'une manière prudente, parce que la loi l'interdit, en tout cas l'utilisation de la loi et sa manipulation par le gouvernement Sharon. Et donc, Jonathan Cock, qui est le correspondant permanent du quotidien britannique The Guardian, là-bas, en Israël et en Palestine, a remonté le fil pour essayer de retrouver. Il a retrouvé la prison, sauf qu'il n'a pas le droit de mentionner le lieu où elle se trouve, sous peine d'expulsion. C'est aussi ça, la démocratie israélienne. Mmh. Et il a recueilli toute une série de témoignages dont il fait état et qui montrent que cette prison est aujourd'hui une espèce de symbole de l'arbitraire. C'est-à-dire que n'importe qui, surtout si les Palestiniens s'y retrouvent, qu'on peut y torturer, qu'on peut y commettre des violences sexuelles répétées, dont l'auteur est connu. Et tout cela dans l'impunité, évidemment, la plus absolue. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est ce que montre Jonathan Cook, c'est-à-dire qu'à son avis, en recoupant toute une série de témoignages, cette prison n'est pas la seule prison secrète. Il y en a d'autres. Et il donne à cet égard toute une série d'éléments assez précis. Je dirais, moi, ça, la lecture de ce papier m'a fait penser à un très beau livre qui avait été publié à l'époque de la guerre d'Algérie, qui s'appelait La gangrène. La gangrène, c'était le fait que le comportement criminel de l'armée française en Algérie avait petit à petit fait tache d'huile en France aussi. Mmh. Et que donc l'arbitraire déchaîné en Algérie s'était petit à petit fait sa place aussi en France, et d'ailleurs pas seulement contre les militants algériens aussi, un certain nombre de militants français avaient été...
La corruption morale, quoi.
Voilà, la gangrène. La gangrène. Eh bien, on est dans la gangrène. C'est-à-dire que plus ce conflit continue, plus cette guerre relativement barbare, c'est ce qu'explique Léa Tzemel au fond, se poursuit, et plus les libertés qui étaient une des réalités de la société israélienne, ces libertés sont rognées, sont menacées, sont remises en cause, pour les Palestiniens, bien sûr, pour les Arabes israéliens, les Palestiniens d'Israël aussi, mais aussi pour les militants. On le voit d'ailleurs de manière très intéressante dans le film, je profite pour le dire, qu'ont tourné Eyal Sivan et Michel Cléphy, qui va passer le 24 novembre sur Arte. Et Cléphy et Sivan ont remonté ce qu'ils appellent...
Un réalisateur palestinien et un réalisateur
voilà, israélien. Ont remonté ensemble ce qu'ils appellent la route 181, c'est-à-dire la route qui était celle de la frontière du plan de partage de la Palestine de 1947. Et au détour de cette route, ils rencontrent des Juifs et des Arabes et racontent énormément de choses de la société israélienne, la société palestinienne, de la révolution. Et on voit aussi dans ce film, à un moment, comment des manifestants absolument pacifiques qui viennent depuis Israël, ils sont juifs, ils sont arabes, ce sont des membres de Taayouch, l'association Vivre Ensemble, comment, arrivant du côté des territoires palestiniens occupés, ils sont brutalisés par la police et l'armée israélienne. Je ne dis pas comme s'ils étaient des Palestiniens des territoires, mais un peu. Et donc on a cet effet de gangrène, cet effet de boomerang sur la société israélienne, sur lequel on reviendra sûrement, parce que c'est un thème important. Je veux aussi dire, pour ne pas l'oublier, qu'il y a dans ce dossier, ce mois-ci, un article que je trouve à la fois très intelligent et très fin, d'une universitaire, qui s'appelle Leila Farsak, et qui prend de front la question de la comparaison entre l'apartheid et la Palestine. Et elle essaye non pas... de faire une espèce de croquis manichéen. Elle essaye bien de montrer en quoi on peut comparer et en quoi on ne peut pas comparer ces deux situations.
L'impression qu'on a à la lecture du papier, c'est que c'est pire.
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce qu'il y a...
C'est la conclusion que j'ai tirée.
Non, on ne peut pas dire ça parce que il y a une différence très importante, et elle le souligne, entre le statut des Palestiniens des territoires, qui sont, eux, dans une situation d'apartheid, c'est-à-dire de refus de tout droit civique, alors que les Arabes israéliens, les Palestiniens des territoires, ont, eux, le droit de vote et un certain nombre de droits, même si ces droits sont de plus en plus remis en cause depuis l'arrivée au pouvoir d'Ariel Sharon. C'est un premier point de différence. Deuxième point de différence, il est essentiel, le but du régime sud-africain, du régime d'apartheid, c'était de créer des bantoustans qui soient des réservoirs de main-d'œuvre, ouvriers exploitables, corvéables à merci, mais pas dotés de droits civiques. Ça n'est pas le problème des dirigeants israéliens, ni d'ailleurs de la bourgeoisie israélienne, parce que ils ont fait venir, depuis maintenant plus de 10 ans, des masses considérables de travailleurs étrangers, non-juifs, on peut dire non-juifs.
Oui, j'accepte.
Donc, enfin, non-juifs, donc. Des travailleurs qui viennent de Thaïlande, des pays de l'Est, d'Afrique, d'autres pays d'Asie, et qui sont venus, en fait, remplacer la main-d'œuvre palestinienne. Donc, le problème du côté israélien n'est pas celui du réservoir de main-d'œuvre. Ça fait une énorme différence avec la situation de l'Afrique du Sud. Cela étant dit, ce que montre l'article, c'est sans doute pour ça que vous en avez retenu cette conclusion, vous avez bien fait, c'est que plus on va, et plus on approche d'une situation d'apartheid. Parce que le fait de ne pas créer un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël fait qu'on va, de fait, vers une situation d'État binational, dans lequel, cette fois, contrairement à ce qui se passe en Israël, une partie des habitants, les Palestiniens, n'auront pas aucun des droits civiques, alors que les autres, les citoyens israéliens juifs, on peut dire israéliens juifs, oui, auront, eux, les droits civiques. Donc, si vous voulez, on a là quand même une évolution qui est indiscutablement une évolution vers une situation d'apartheid, je veux dire, généralisée.
Et qui conduit à un transfert déguisé, parce que vivant dans cette situation entre guillemets d'apartheid, on n'a qu'une idée, c'est partir.
Oui, c'est
quand on est palestinien, quand on est à Gaza, quand on est en Cisjordanie, on a envie de partir. Tout est fait pour pousser les Palestiniens à partir.
C'est clair, mais les Palestiniens ont cette particularité parmi beaucoup d'autres peuples qui partent, qu'ils savent que quand on va acheter un paquet de cigarettes au tabac du coin et que ça se passe en 48, on n'est pas sûr de revenir chez soi. Je plaisante, je veux dire qu'il y a une expérience historique qui est celle des Palestiniens, c'est quand on part, on revient pas. Et c'était vrai en 48 et c'est vrai aussi en 67, donc il faut nuancer ce que vous dites d'une volonté de s'accrocher à la terre, qui est d'ailleurs au cœur du conflit.
N'empêche que les Palestiniens partent, les Palestiniens chrétiens sont partis, Bethléem, il y a eu quand même des départs importants, et on continue d'avoir des départs. On n'en parle pas trop pour pas désespérer.
On estime entre 100 000 et 200 000 le nombre de Palestiniens qui sont partis depuis 3 ans. Donc vous avez raison, il y a des phénomènes de départ. Mais ça ne suffit pas, loin de là, à compenser le déséquilibre démographique grandissant qui fait qu'en gros, dans maintenant 6 ans, 7 ans, il y aura une majorité de Palestiniens sur l'ensemble de ce territoire et une minorité d'Israéliens juifs. Donc on aurait là une situation qui est au cœur de la problématique de Sharon. C'est-à-dire, quand on est face à ça, ou bien on crée un État palestinien à côté d'Israël qui assure non seulement la paix et la coexistence, mais la survie des deux États, y compris de l'État d'Israël comme État juif, tant qu'en tout cas que les citoyens israéliens en décideront ainsi, ou bien on se dit, on va essayer de remettre en cause cette évolution démographique, comment ? En utilisant les circonstances pour aller vers un transfert, non pas, je dirais, entre guillemets, volontaire, mais réellement un transfert forcé. Donc on est là dans une espèce de d'hésitation forte, et je crois que ce gouvernement a fait la preuve qu'il était décidé à aller jusqu'au bout pour empêcher toute solution qui passe par la création d'un véritable État palestinien. Tout le problème est de savoir s'il en a les moyens. Et je crois que ce qui se passe depuis quelques semaines maintenant montre que Sharon est confronté à une difficulté qu'il n'a jamais eue depuis qu'il a été élu. C'est à la fois une faillite économique, qui a des conséquences, on en a parlé, considérables pour la population israélienne, juive et arabe. On a, deuxièmement, une impasse sécuritaire, puisque malgré l'extraordinaire déploiement de forces de l'armée israélienne, avec toutes les méthodes dont on a parlé, je ne vais pas y revenir maintenant, ça ne marche pas. Et puis, on a une impasse diplomatique. C'est-à-dire qu'Israël est dans un état d'isolement. Enfin, il faut savoir quand même, je ne sais pas si on l'a dit aux informations de France Inter, moi j'écoute 7h-9h, j'ai pas entendu, mais Quand il y a eu le vote sur la question du mur, il y a eu 4 voix contre la résolution qui condamnait Israël à l'Assemblée générale des Nations unies. Israël, on comprend, les États-Unis, on comprend, les îles Marshall et la Micronésie.
On comprend.
Voilà. Donc on est quand même dans un isolement que jamais la diplomatie israélienne n'a connu depuis des dizaines d'années. Donc je crois que c'est parce qu'il y a cette faillite du gouvernement Sharon, cette triple faillite, que l'accord de Genève est important. Parce que tout d'un coup, au milieu de ces difficultés considérables de la droite et de l'extrême droite israélienne, voilà que l'ensemble de la gauche israélienne, grosso modo, et une bonne partie de la classe politique palestinienne, y compris les amis de Marwan Barghouti, c'est-à-dire les amis du Tanzim, de la jeunesse du Fatah, disons, se retrouvent autour d'un texte qui fait 2 preuves, donc. Premièrement, la paix est possible, puisqu'ils ont mis au point un projet global qui fait 50 de pages, qui traite de tous les sujets, qui les résout tous, et que, deuxièmement, pour faire cette paix, il y a un partenaire.